Bonjour à toutes et à tous. On continue notre série de méditations sur l'Épître aux Hébreux et je commencerai par vous rapporter une petite anecdote qui concerne George Müller, qui était un pasteur allemand qui était installé à Bristol en Angleterre. Il avait été touché par la misère des enfants des rues et il avait fondé plusieurs orphelinats. Un matin, les enfants étaient prêts pour le petit déjeuner. Mais il n'y avait ni nourriture, ni argent. Müller demanda à tous de s'asseoir à table et pria « Seigneur, nous te remercions pour ce que tu vas nous donner. » Et si vous regardez bien l'image, dans les assiettes, il n'y a rien. Un boulanger frappa à la porte. « J'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai senti que vous auriez besoin de pain ce matin. » Et il arrive avec une livraison de pain. Puis un laitier frappe à la porte. « Mon chariot vient de se casser devant votre orphelinat. Plutôt que de laisser le lait se perdre, est-ce que je peux vous l'offrir ?» Et les enfants ont mangé à leur faim. George Müller n'avait rien demandé à personne, sauf à Dieu. Ce qui rend l'œuvre de George Müller exceptionnelle, c'est qu'il avait décidé de ne jamais demander d'argent à quiconque. Il croyait fermement que Dieu pourvoirait à tous les besoins par la prière seule. C'était un homme très organisé, il a tenu des journaux détaillés de ses prières et des réponses reçues. Il en a compté sur la fin de sa vie plus de 50 000 exaucés, dont plusieurs milliers, dit-il, dans les heures qui ont suivi les demandes. Au cours de sa vie, il a nourri et éduqué environ 10 000 orphelins. Cette anecdote, pour illustrer le premier verset du chapitre 11 que nous méditerons ce matin, « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors qu'il n'avait rien à offrir aux enfants pour le petit déjeuner, George Müller remercia pour ce qu'il n'avait pas encore, mais comme s'il l'avait déjà reçu. Il avait cette ferme assurance que Dieu pourvoirait à ce repas, et voilà pourquoi il a remercié Dieu par anticipation. Antoine, ce matin, dans sa présidence, a mis l'accent sur la fidélité de Dieu. Cette prédication nous parlera de la foi. Est-ce que vous savez que ces deux mots, foi et fidélité, finalement ont la même racine étymologique latine? C'est le mot fides, qui veut dire, dans un premier sens, confiance. Et la fidélité nous parle de Dieu, la foi nous parle de la réponse que nous donnons à l'appel de Dieu. Rappelons le contexte du chapitre 11. Dans les premiers chapitres, l'auteur s'est efforcé de montrer la supériorité de Christ et de son œuvre. Et dans la fin de l'épître, il braque le projecteur sur les croyants et sur leur réponse de foi. Le chapitre 10 se termine par une sérieuse mise en garde. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Il termine néanmoins par une note rassurante. Quant à nous, ce « nous » ce matin devrait avoir une certaine résonance, hein. Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Si les destinataires de l'Épître ont besoin de persévérance, c'est parce qu'ils sont confrontés à des oppositions de la part de leurs anciens coreligionnaires qui font pression pour qu'ils reviennent à leurs anciennes pratiques, mais aussi parce que les promesses qu'ils ont reçues d'un retour de Jésus tardent à se réaliser. Au moment où l'épître est rédigée, la première génération des chrétiens est en train de disparaître et Jésus n'est toujours pas revenu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait mal compris? Pourquoi cette attente? Pourquoi toute cette opposition autour de nous? Nous aussi, nous avons besoin de persévérance. Comment faire quand il y a un décalage entre ce que nous avons compris des promesses de Dieu et la réalité de notre vécu? Comment croire quand nous sommes confrontés à l'attente, la défaite, l'épreuve, la déception, parfois le désespoir, la persécution? L'auteur a choisi la pédagogie par l'exemple pour encourager ses lecteurs. Son pari, c'est que la foi s'apprend aussi par l'imitation. Il va rappeler que beaucoup dans l'Ancien Testament sont parvenus à tenir bon et ont été approuvés de Dieu parce qu'ils ont cru en lui et en ses promesses. Nous verrons que cela ne signifie pas qu'ils étaient parfaits, qu'ils aient toujours été exemplaires. Mais vous remarquerez aussi que l'auteur ne rappelle pas les faiblesses ni les manquements des personnages qui nous sont donnés en exemple, mais qu'il met l'accent sur ce qui leur a valu l'approbation de Dieu. Le chapitre 12 commence ainsi au verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. On imagine que l'auteur se voit en présence des gens qu'il va citer en disant « Mais regardez comment ils ont fait et suivez-les. » Sur le plan du style, ce chapitre est connu pour un procédé qu'on appelle l'anaphore, qui consiste à répéter en début de phrase tout le temps la même expression. « C'est par la foi que » 18 fois dans ce chapitre qui compte 40 versets. Un peu comme on répète les coups de marteau sur la tête d'un clou pour l'enfoncer, mettant ainsi l'accent sur ce qui lui paraît essentiel, croire aux promesses de Dieu, malgré les circonstances et quoi qu'il en coûte. Dans son commentaire, Warren Wiersbe donne cette définition de la foi. La véritable foi biblique, c'est une obéissance confiante à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, ça complique les choses, et les conséquences, ça aussi, ça complique les choses. Revenons sur le premier verset. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une conviction inébranlable, non seulement que Dieu existe, mais aussi que ce qu'il a promis va bel et bien arriver. Dans Hébreux 10, on a déjà lu « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe, ça paraît la moindre des choses, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Croire que Dieu existe, ce n'est pas suffisant. Jacques dit dans son épître « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Je crois qu'il viendrait à l'idée à personne de dire que les démons croient en Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut aussi que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Une rémunération, c'est une récompense. Hein. Quelquefois, c'est même un dû. Pour qu'il puisse recevoir donc cette récompense qui lui a été promise par Dieu. Et nous verrons que cette notion de récompense, elle est présente dans tout le chapitre. Elle avait d'ailleurs été mentionnée précédemment au verset 35 dans le chapitre 10. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Le verset 1 continue ainsi. « La foi, c'est la démonstration de celles, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. » Et cela m'a rappelé un épisode qui est rapporté dans le deuxième livre des Rois, où le roi de Syrie est excédé de voir que toutes ses tentatives militaires sont déjouées par le prophète Élisée, et qui se dit, on ne va jamais y arriver, il lit dans mes pensées, donc on va d'abord maîtriser Élysée, et ensuite on pourra faire ce qu'on veut. Et donc il envoie ses troupes encercler le prophète Élysée, et un matin, le serviteur d'Élysée sort, et il voit toutes ses troupes, il est complètement encerclé, et c'est la panique. Élysée le rassure et lui dit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élysée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux, en parlant du serviteur, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais voulu être là. Quand même. Parce que vous imaginez, vous regardez le ciel et vous voyez des armées célestes qui se battent pour vous. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit le ciel ? Moi non, en général, là je vois plutôt les nuages en ce moment. Voilà. La démonstration de celle qu'on ne voit pas ce jour-là, Élysée a demandé à Dieu de donner la démonstration à son serviteur qu'il y avait des armées célestes qui combattraient pour eux. Le verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Notre conception chrétienne de la création, ben, c'est une conviction, ce n'est pas une preuve. C'est quelque chose dont on a l'assurance, mais pas la preuve. Alors j'ai eu des choix à faire pour étudier ce chapitre. Il y a tellement d'exemples qui sont donnés que je me suis dit qu'en une demi-heure, ce n'était pas possible d'évoquer tout, donc... J'ai choisi d'en garder deux. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer à côté d'Abraham. Il est appelé le père de la foi. Et de Moïse. Tout d'abord, ce que ce chapitre 11 nous dit d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et plus loin dans le texte, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Alors j'ai voulu regarder dans le livre de la Genèse, le récit de la vie d'Abraham qui nous est proposé et qui est évoqué là très rapidement. Premier épisode dans la vie d'Abraham, Dieu lui demande de quitter son pays. On le voit en Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Vous imaginez recevoir une telle parole. Dans la sagesse populaire, on dit « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras hein. ». Et bien là, la réponse d'Abraham, il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et peut-être que vous serez déçus en disant « mais ils n'expliquent pas comment Abraham a cru ». Je crois que c'est tout simplement parce que la foi, bah, c'est la ferme assurance. On y va, il n'y a pas d'explication, on ne réfléchit pas. Je crois que si on se met à réfléchir, là, au contraire, on ne part pas. Deux remarques. Le commandement est assorti d'une promesse. « Je ferai de toi une grande nation ». Et la réponse d'Abraham se résume en un seul mot. l'obéissance. Deuxième épisode, dans la vie d'Abraham, Dieu lui promet une postérité. Chapitre 15, « Ta récompense sera très grande. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Cette fois, Dieu ne demande rien en contrepartie, mais il fait une promesse. Et la réponse d'Abraham tient une fois encore en un seul mot, confiance. Et la conséquence de la confiance qu'il met en Dieu, c'est qu'il est approuvé de Dieu. Troisième épisode, l'annonce de la naissance d'Isaac. Dieu renouvelle son alliance avec Abraham et lui annonce la naissance à venir d'Isaac. Et la première réaction d'Abraham sera d'être quand même un peu circonspect, pour ne pas dire incrédule. Genèse 17, verset 17, « Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et on sait que Sarah a la même réaction. Mais après cette annonce, Dieu scelle son alliance en instituant le signe de la circoncision. Et la suite du récit nous dit, ce même jour, donc le jour de l'annonce, Abraham fut circoncis. C'est-à-dire, bon, il a commencé par douter quand même un peu, en rire, en disant quoi, à mon âge ? Mais quand Dieu lui dit, le signe de l'alliance, c'est la circoncision, il se fait circoncire le jour même. Un exemple d'obéissance, même s'il ne comprend pas comment Dieu va s'y prendre pour lui donner un fils. Last but not least, comme disent les Anglais, c'est peut-être le dernier, mais ce n'est pas le moins parlant. Genèse 22, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils unique, offre-le en holocauste. » L'holocauste, c'est le sacrifice par le feu, hein. Abraham se leva de bon matin et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Là encore, Abraham obéit sans aucune objection. Humainement parlant, c'est impossible d'offrir son fils sur un bûcher et de craquer l'allumette, quoi. C'est... En plus, ce fils que Dieu lui a donné. Et reprendre, on sait, c'est pas beau, hein, disent les enfants. Comment on peut imaginer que ce que Dieu nous a donné, il va nous le réclamer ? Eh bien, on nous dit simplement qu'Abraham pensait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. D'où il tient cette pensée-là ? On n'en sait rien. Il a cette conviction, et c'est parce qu'il a cru qu'il a conservé son fils. Et qu'il n'a pas dû aller au bout du sacrifice qui lui était demandé. Face à un tel exemple, je reconnais que ma foi est bien faible, et ça me rappelle cette confrontation d'un père qui demande à Jésus de guérir son enfant, et qui dans sa question lui dit « si tu peux ». Et Jésus lui dit « quoi, si je peux ?» Et tout de suite le père se reprend en disant « je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et combien de fois on se trouve dans cette situation où on doit demander l'aide de Dieu. Et aux disciples qui demandent à Jésus pourquoi ils n'ont pas réussi à guérir cet enfant, Jésus répond, cette espèce-là de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. On trouve ça dans Marc 9. La parole nous enseigne également que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi je vous lis ces deux versets ? Parce que finalement, elles nous donnent des outils pour progresser dans la foi, la prière, la lecture de la parole. Ah tiens, ça marche. Pardon. Quand j'ai fait le test à la maison, ben, tout apparaissait en même temps, donc j'ai cliqué qu'une fois, et puis là, cette fois-ci, les animations sont là. Venons-en à Moïse. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas Moïse qui agit là, hein, c'est ses parents. Ils avaient vu, en effet, que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. L'auteur commence par évoquer les circonstances de la naissance de Moïse. Pharaon avait demandé de tuer tous les premiers-nés des Hébreux, et Moïse est un premier-né, donc il doit faire partie des enfants qui sont tués. Et alors que leur enfant était condamné à mort par Pharaon, ses parents ont fait le choix de le confier à Dieu. Alors, humainement parlant, on peut se dire ils sont tellement désespérés que la seule issue qu'ils ont pour sauver leur fils, c'est de dire au moins, il va s'échapper par là, puis on verra bien. L'auteur de l'Épître, lui, y voit un acte de foi qui leur a permis de surmonter la peur du roi. Lorsque le texte dit que les enfants ont vu que l'enfant était beau, ça nous fait un peu sourire. On dit heureusement pour lui, parce que s'il avait été moche... Et alors j'ai trouvé cette explication dans un commentaire qui dit que le terme qui a été traduit par « beau », c'est le même que celui qui est utilisé par Dieu quand il évalue sa création et qu'il dit « Dieu vit que c'était bon ». Les parents de Moïse ont vu en lui une création de Dieu et ils ont fait le choix de le rendre à Dieu, de le confier à Dieu, plutôt que de le garder avec eux et de le perdre. Et dans la suite de l'histoire de Moïse, ce qui est remarquable, c'est que Dieu a fait en sorte que leur fils leur soit rendu. Puisque quand la fille de Pharaon va le découvrir, elle va se mettre en quête d'une nourrice. Et qui va être choisi comme nourrice pour Moïse ? Sa mère biologique. Et puis on voit aussi la sœur de Moïse, Myriam, qui surveille la corbeille sur le Nil. Et ça nous montre que Dieu veille, même dans les circonstances les plus terribles. Les parents de Moïse ont fait le choix de s'en remettre à Dieu. Et ils ont sauvé leur enfant. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une récompense plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Alors évidemment, dans ce texte, il y a une référence au Messie qui ne peut pas être contemporaine de Moïse. C'est quelqu'un qui vit à l'époque après l'époque de Jésus, qui lit les événements d'une certaine façon. Cet extrait nous montre que Moïse est un exemple de foi qui a préféré l'obéissance à sa conviction plutôt qu'à la préservation de son statut social. Il est quand même considéré comme un fils de Pharaon. C'est pas rien, quoi. La sécurité, le prestige, la facilité, tout ce que ça entend. Eh bien, lui, il a senti un appel de Dieu à défendre son peuple. Et finalement, il fait le choix de renoncer à tout ce qui est prestigieux pour rejoindre son peuple. Le verset 26 nous montre que nous devons parfois faire des choix, obéir à Dieu en vue d'obtenir la récompense à venir, dont nous bénéficierons dans l'éternité, plutôt que des richesses, certes attrayantes et sécurisantes, mais éphémères. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Là, on part de son deuxième départ d'Égypte, quand il part avec le peuple d'Israël. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Quand on relit dans Exode 2 toute la vie de Moïse, on vit qu'après avoir tué un Égyptien, Moïse a peur et prend la fuite parce que Pharaon cherchait à le faire mourir. Et 40 ans plus tard, quel contraste où on nous dit que Moïse n'a plus peur de Pharaon. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller vers son peuple pour lui annoncer sa délivrance à venir, Moïse n'a pas dit tout de suite comme Abraham, « Oui, allez hop, j'y vais. » Non, il a dit, non, mais je ne suis pas très doué pour parler. Et puis, ils vont me poser des questions, ils vont me dire, mais qui t'envoie? Enfin bon, on voit que c'est un dialogue qui va même finir par exaspérer Dieu, qui va lui dire, bon, bah, puisque tu ne veux pas y aller, je vais te joindre à Aaron. On nous dit que Dieu se met en colère sur Moïse. Et Moïse va finir par se mettre en marche. Un autre épisode qui est frappant dans la vie de Moïse, c'est que pendant qu'il est en chemin pour retourner en Égypte, ben on nous dit que Dieu va tenter de le tuer. Ça aussi, c'est quand même assez surprenant. Voilà quelqu'un qui nous est donné comme exemple de foi, mais à un moment de sa vie, Dieu était tellement en colère contre lui qu'il a envisagé de le tuer. Pourquoi ? Ben, il semblerait que Moïse n'avait pas circoncis son fils et que donc ben, il s'était attiré la colère de Dieu. Ceci pour dire, quand je disais qu'on va beaucoup parler de la fin de la vie des héros qui nous sont cités, même si à certains moments de leur existence, ces héros n'ont pas été exemplaires ou obéissants, ce n'est pas ça qui reste dans l'éternité et qui empêche ici Moïse de figurer dans la liste des héros de la foi. L'auteur met l'accent sur les victoires remportées par Moïse et non pas sur ses faiblesses. Ne nous laissons donc pas décourager par l'accusateur qui ne manque jamais de nous rappeler nos faiblesses, nos défaillances et nos manquements. Quelques autres personnages cités rapidement. Une prostituée, Rahab. Une prostituée donnée en exemple de foi. Et en quoi est-ce qu'elle a été exemplaire ? Eh bien, c'est lorsqu'elle était au milieu de son peuple et que des espions sont venus pour repérer le terrain. Elle qui avait entendu parler de la traversée, de l'exode, de tout ça, de la sortie d'Égypte, elle a eu ce discernement et elle s'est dit, c'est ce Dieu-là qui est le bon et c'est à celui-là qu'elle a fait confiance. Et donc, elle a fait le choix de cacher les espions, de faire promettre aux espions qu'elle et sa famille seraient épargnées quand ils auraient la victoire, ce dont elle était déjà convaincue. C'est ça qui fait que Rahab est citée en exemple de foi, c'est évidemment pas sa vie en tant que prostituée. Gédéon fait partie des noms cités. Pourtant, je ne sais pas, et je ne me comparerai pas à Gédéon du tout, parce qu'on serait bien petit à côté de lui, mais combien de fois il a demandé à Dieu des confirmations ? Hein ? S'il y a de la rosée à tel endroit, alors là je vais y aller, je serai sûr que c'est bien ça que tu m'as demandé. Et la rosée vient. Oui, mais maintenant, si tu fais les choses dans l'autre sens, pour voir que ce n'est pas par hasard, ce n'est pas la laine qui attire la rosée, c'est... Et Dieu, finalement, ne lui tient pas rigueur de cela. Il fait de Gédéon un modèle de la foi. Et ce ne sont pas ses doutes, ses questions qui sont retenus, mais c'est son obéissance finale. Et que pensez-vous de Samson, qui est dans la liste ? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de dire à vos enfants, « Écoute mon fils, quand tu seras dans le doute, eh bien regarde la vie de Samson et fais comme lui. » Sûrement pas, hein ? Parce que s'il est ado et qu'il vient vous dire qu'il a choisi d'épouser une philistine, enfin, s'il faut transposer à l'époque et tout, vous imaginez votre réaction. C'est un homme orgueilleux, impulsif, prisonnier de ses convoitises, souvent violent, qui a désobéi plusieurs fois à son vœu de Naziréa. Mais à la fin de sa vie, il formulera cette requête, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. » Il n'est jamais trop tard pour faire confiance à Dieu et espérer être un jour cité en exemple de foi. La fin de vie des personnages cités, c'est souvent elle qui est prise en considération. On verra plus tard dans Hébreux 13 ce verset, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » On voit à travers ces exemples que Dieu est patient. Parce que c'est dans sa nature. Il est fidèle parce que c'est dans sa nature. Il est patient parce que c'est dans sa nature. Mettons cette patience à profit pour progresser dans la foi, sans craindre que nos efforts arrivent trop tard. Mais sans faire non plus de cette patience un prétexte pour tarder. Si on lit d'autres passages de ce texte, par la foi, ceux qui viennent d'être nommés, donc, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, étaient vaillants à la guerre, ils ont mis en fuite des armées étrangères, des femmes ont retrouvé leur mort après la résurrection. Waouh ! Quelle réussite ! Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on serait dans un évangile de la prospérité ? La foi vous assure de la victoire ? Ben, si on continue la lecture, ce n'est pas tout à fait ça. D'autres ont été torturés et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Bien que torturés, ils ont persévéré. Ce n'est pas les victoires qui doivent nous encourager à continuer. Ce sont les promesses de Dieu. D'autres ont encore subi les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau de brebis ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Ah, ça vous donne moins envie de persévérer dans la foi, hein. Alors on comprend bien pourquoi l'auteur a cité toutes ces victoires. On a envie d'y aller. Mais pour être honnête, et pour que les gens ne soient pas découragés à la première difficulté rencontrée, eh bien il cite aussi toutes les difficultés et les échecs. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais parmi les paroles citées, ceux qui sont tourmentés, torturés et tout, et qui persévèrent, ils n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. J'avais eu l'occasion, en introduisant la première méditation sur l'Épître aux Hébreux, de citer cette parole de Brad Dixon, à qui on avait demandé de résumer l'Épître en un mot. Alors il avait dit, en un mot, je ne peux pas, mais deux. Meilleur et persévérer. Eh bien, les deux sont dans la méditation d'aujourd'hui. Jésus lui-même avait prévenu ses disciples que la vie des chrétiennes n'est pas un chemin dépourvu d'obstacles. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La réussite ou l'échec dans nos combats, ce n'est pas ça le thermomètre qui nous dit si nous avons peu ou beaucoup de foi. Tous ceux qui ont été mentionnés l'ont été à cause de leur foi, pas à cause de leur réussite. Loin d'être désapprouvé par Dieu, l'auteur dit de ceux qui ont souffert que le monde n'était pas digne d'eux. Et loin de rester sur une note défaitiste, l'auteur termine sur une note d'espoir. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, donc on parle de tous ces héros de la foi qui ont été cités, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, j'ai envie de dire pas encore, obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue, quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ne nous arrêtons pas à ce que nous voyons aujourd'hui, mais tournons nos regards vers l'avenir. Car, et on retombe dans la présidence d'Antoine ce matin, celui qui a fait la promesse est fidèle. J'ai relevé 8 promesses. Alors, vous m'auriez dit, Philippe, t'aurais pris 7, c'était symboliquement... J'ai pas voulu enlever une promesse quand même. Je me suis dit, on va pas pour le symbole se priver de quelque chose. J'ai pas développé tout ça et si ça peut vous encourager, je les ai reproduites et imprimées, vous pourrez les retirer. 8 versets qui nous disent que Dieu nous a promis la vie éternelle, le pardon des péchés, la paix intérieure, une présence constante de Dieu auprès de nous, des forces renouvelées, le secours dans l'épreuve, la direction et la sagesse, la protection de Dieu. Il y a des circonstances où on a besoin de relire des choses pour être encouragé et persévérer. Je le répète, celui qui a fait ses promesses est fidèle. Alors j'en arrive à la conclusion. Dans cet épître, l'auteur nous invite constamment à la persévérance. Dans les premiers chapitres, il le fait en nous demandant de nous souvenir de l'excellence de la personne de Jésus. Une autre fois, il nous a mis en garde en nous rappelant le contre-exemple du peuple de Dieu au moment de l'Exode. Regardez ce que produit le manque de foi. Eh bien, ils ont été privés de tout ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas vu la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Et ils ont fait perdre 40 ans au peuple d'Israël. Ici, l'auteur choisit de s'appuyer sur des témoignages positifs de foi. Il montre que beaucoup ont su rester fidèles en dépit des circonstances bien plus difficiles que celles qui sont connues par les premiers lecteurs, et on peut dire aussi que les nôtres pour beaucoup d'entre nous. Son but était de nous convaincre qu'une vie caractérisée par la foi est possible, comme l'ont montré ces héros de la foi, comme l'a montré Georges Müller et d'autres. Ces hommes n'ont pas tous connu des victoires. Et Brad Dixon fait cette remarque dans son commentaire, « Le croyant qui réclame le ciel sur la terre, donc il dit, mais pourquoi les promesses ne sont pas encore réalisées? Pourquoi je ne les vois pas? Eh bien, ce croyant, dit-il, oublie que de plus grands que lui ne l'ont pas obtenu. Il oublie que la foi se satisfait de l'espérance. » L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors oui, nous faisons tous ce même constat, vous comme moi. Il n'est pas facile de toujours faire confiance à Dieu. Oui, nous avons du mal à croire sans voir. Oui, nous sommes impatients. Mais nous voulons nous souvenir que celui qui a fait la promesse est fidèle, qu'il ne tarde pas et qu'il a en vue des choses meilleures. À la fin de la parabole du juge inique, Jésus termine par cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? Cette question, on peut la prendre pour nous aussi. Et j'espère que notre réponse ne sera pas celle de se désespérer accroché à la paroi. Puissions-nous, comme l'auteur de l'Épître, dire « nous ». Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Donc, n'hésitez pas à venir retirer les versets si vous voulez.